Nous sommes invités à ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes invités à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11, les versets. Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen.
C'est un cambrioleur qui s'introduit dans une maison le soir. Il fait nuit, les propriétaires sont absents et il se prépare à faire main basse sur des objets de valeur qu'il pense pouvoir revendre et dont il pense tirer profit. Et il est dedans, c'est l'obscurité, il allume sa lampe torche et il regarde un petit peu ce qu'il y a autour de lui. Et il va se saisir d'un objet pour le mettre dans son sac quand il entend soudain une voix qui lui dit « La mort te regarde ». Il respire à peine, il bouge plus, il éteint sa lampe, il se demande ce qui va lui arriver. Mais les secondes passent, la minute passe, 2 minutes passent et rien ne se produit. Alors il se dit quand même, j'ai dû rêver. Il va falloir que j'aille chez le docteur parce que ça va plus. Le stress est en train de me tuer. Il faut que je change de métier. Et il se ressaisit, et voyant que rien ne se produit, il rallume sa lampe, il dit « Tiens, je vais continuer quand même, je suis venu pour ça ». Et il va se saisir d'un autre objet, et de nouveau la voix qui retentit, une voix un peu étrange, « La mort te regarde ». Cette fois, il est un peu moins surpris, un peu moins figé, et il croit même avoir repéré l'endroit d'où vient cette voix. Il est clair, effectivement, dans un coin de la pièce, il y a un perroquet sur un perchoir. Et il lui dit « Ah, tu crois que tu m'as fait peur, hein ?» Espèce de perroquet. Il dit « D'ailleurs, qui tu es, toi? Comment tu t'appelles ?» Alors le perroquet lui dit « Je m'appelle Pépito ». C'est ridicule pour un perroquet de se laisser appeler. Il dit « Oui, mais mon maître est bizarre. Tu ne sais pas comment il a appelé son Rottweiler ? La mort. » Bien, on ne sait pas ce qui s'est passé lorsque la mort a sauté sur le cambrioleur, mais probablement rien de bon pour lui. Puisque ce ne sont pas des chiens qui sont réputés pour être doux et gentils. Ils sont plutôt cruels et agressifs, surtout quand on rentre dans leur territoire. Et vous savez qu'il ne faut pas essayer de se mesurer à eux. Ils sont plus forts que nous. Parfois, quand on regarde la société autour de nous, quand on se regarde un petit peu, on se dit, tiens, est-ce que par moment, je ne suis pas un peu, quand on rentre dans mon territoire, je ne suis pas un peu comme les Rottweilers. Est-ce que je n'ai pas un peu tendance à sauter sur les personnes qui viennent empiéter un peu, qui viennent peut-être me marcher un petit peu sur les pieds, qui viennent me créer des petits problèmes ou qui me sont antipathiques tout simplement? Est-ce que je ne réagis pas un petit peu comme notre bon chien de garde Est-ce que je ne réagis pas un petit peu comme notre bon chien de garde? Et quand on regarde la société, c'est vrai que à l'heure actuelle, les gens sont stressés, sont énervés. Aller à Paris, bon, c'est le cas typique, c'est presque la caricature. On va à Paris, on voit que des gens qui sont stressés, qui sont prêts à bondir les uns sur les autres. Vous prenez le métro, on vous insulte si vous n'allez pas assez vite. On vous compresse si vous ne vous tassez pas dans un coin. Si vous ouvrez la bouche, on vous tombe dessus à bras raccourcis, on vous insulte et presque certains en viennent aux mains. Je sais que quand il y avait des grèves et tout ça, c'était un petit peu la foire d'empoigne pour pouvoir prendre un train. Et la société est comme ça. La semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, il y avait la journée des violences faites aux femmes, dans laquelle on nous disait... À la radio, on l'a répété plusieurs fois, que tous les deux jours et demi, une femme mourait des sévices qu'elle subissait, de la part de son conjoint en général, de son compagnon, de quelqu'un avec qui elle vivait. Donc c'est une société qui est de plus en plus violente, de plus en plus agressive. On a peut-être besoin d'autre chose parce qu'on voit que cette agression, cette violence ne résout pas réellement les problèmes. Elle ne fait en général que les attiser. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul avait remarqué que même de son temps, ça ne se passait pas toujours très bien et qu'il y avait des réactions toujours un peu vives, toujours un peu violentes. Et il dit dans ses recommandations qu'il fait, en général à la fin des épîtres, vous connaissez ses recommandations, priez sans cesse, soyez toujours joyeux, réjouissez-vous. Et aux Philippiens, au chapitre 4 du livre la lettre qu'il écrit aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 5, il dit la chose suivante, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Le thème de la douceur, ce n'est pas un thème dont on entend souvent parler, même dans les prédications. Je ne me rappelle pas, j'étais petit à l'église et j'ai vieilli dans l'église, mais je ne me rappelle pas vraiment avoir entendu un culte sur la douceur. On aime bien prêcher sur d'autres valeurs, sur d'autres règles de conduite, d'autres manifestations, je dirais, de l'amour. Mais rarement sur la douceur. C'est pas quelque chose dont on aime parler. Et quand il s'agit de la société, on n'aime pas trop la douceur. C'est vrai qu'on associe la douceur à la fierté, on n'aime pas trop la douceur. C'est vrai qu'on associe la douceur à la faiblesse, à l'indécision. Il est doux, il est modéré, parce que le texte peut être traduit aussi, on peut remplacer le mot de douceur par modération, et ceux qui sont modérés, on ne les aime pas trop parce qu'on dit qu'ils ne prennent jamais de décision, ils laissent les choses aller, ils veulent contrarier personne, et donc ils sont là, mais ils ne servent pas à grand-chose, et on fuit un petit peu les modérés, sauf quand il y a de gros problèmes où on envoie des modérateurs aller régler les situations, mais... En général, on se méfie parce que quand on est trop doux, on dit qu'on est mielleux, et quand on est mielleux, il y a une ruse quelque part. C'est qu'on veut faire tomber quelqu'un dans un piège, on essaye de l'appâter un petit peu, comme on appâterait des abeilles avec du sucre. Et donc, c'est pas non plus très bien vu dans la société d'être doux, d'être calme, d'être non agressif, C'est quelque chose qui n'est pas très en vogue, à vrai dire. Mais est-ce que Paul est un homme indécis? Est-ce que Paul est un homme qui est faible? Certainement pas. D'ailleurs, dans la lettre qu'il écrit aux Corinthiens, il dit que certaines personnes disent que ce qu'il leur écrit est sévère et fort. Il dit que ces lettres sont sévères et fortes. C'est dans 2 Corinthiens. Au chapitre 10, le verset 10, Car, dit-on, c'est lui qui le dit, je ne veux pas paraître vous intimider par mes lettres, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. C'est-à-dire que on le qualifie de perdable. C'est-à-dire que on le qualifie de personne qui est trop dure, qui est trop directe, qui dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Et on sait qu'il s'est opposé à Pierre, hein, dans le livre des Galates. On voit qu'il explique qu'il a dû s'opposer à Pierre parce que Pierre prenait une attitude qui n'était pas conforme à cet amour qu'il devait avoir pour les païens, au fait d'aller chez des personnes qui n'étaient pas juives. Et il a dû s'y opposer. Donc c'est pas ce genre de douceur qui est assimilé à de la faiblesse qu'avait Paul. Paul était quelqu'un qui était douceur qui est assimilé à de la faiblesse qu'avait Paul. Paul était quelqu'un qui était qui savait dire les choses telles qu'elles devaient être dites, qui savait prendre des décisions, qui savait donner de sa vie, donner de son temps, et qui était quelqu'un de ferme et de solide. La Rochefoucauld a dit une chose qui est intéressante, c'est que il n'y a que les personnes qui ont de la fermeté qui peuvent avoir une véritable douceur. C'est les personnes qui ont de la fermeté qui peuvent avoir une véritable douceur. La douceur, c'est pas un état de, je dirais, de mollesse, d'indécision. La douceur, c'est quoi alors? Et je vous pose la question, c'est quoi la douceur? Qu'est-ce que ça peut être la douceur si ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la mollesse, ce n'est pas... Alors, j'entends pas d'ici, alors... La compréhension, oui. La patience. La délicatesse. La force de bien maîtriser quelque chose, une situation, un énervement, un tempérament. On dit l'amour, oui. Et la douceur, c'est le refus de la violence. C'est le refus de la violence, c'est-à-dire que je ne veux pas régler les problèmes par la violence, je veux les régler autrement. Et cet autrement, c'est la douceur, c'est la compréhension, c'est la tolérance, c'est-à-dire que je refuse que la violence soit une... C'est-à-dire que je refuse que la violence soit une manière de régler les problèmes. Et c'est ça qui est demandé. Alors on peut se dire, oui, mais bon, c'est peut-être... Et c'est ça qui est demandé. Alors on peut se dire, oui, mais bon, c'est peut-être une idée de Paul. Il réfléchit beaucoup, il lance des idées comme ça, mais est-ce que c'est aussi indispensable, la douceur? Des fois, il faut s'énerver un petit peu, peut-être, pour que les choses... C'est aussi indispensable, la douceur. Des fois, il faut s'énerver un petit peu, peut-être, pour que les choses avancent. Et on regarde, on peut regarder alors à Jésus. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Alors, je ne sais pas si vous avez bien écouté ce qu'on nous a lu dans Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, prenez sur moi votre joug et acceptez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà ce que disait le texte. Je suis doux et humble. Donc c'est pas une idée de Paul, simplement. C'est que Jésus se caractérise comme un être doux. Un être aimable, un être qui est compréhensif, un être qui ne considère pas que la violence est une solution, un être qui ne considère pas que la violence est une solution. Et ça, c'est important, puisque nous nous disons disciples de Jésus. Donc nous ne pouvons pas, il y a un antagonisme à être disciple de Jésus, quelque chose qui ne va plus si je suis disciple et que je suis à la fois violent et inconséquent par rapport à ce que je prétends être. Et donc, c'est cette douceur qui nous est présentée comme la caractéristique de Jésus. Mais Jésus le demande aussi pour les autres. Il y a une béatitude qui est consacrée à la douceur. Vous vous rappelez ? Dans Matthieu 5, le chapitre 5, il est dit quoi ? Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et donc, l'espoir du salut est associé ici à la douceur, à un certain type de salut est associé ici à la douceur, à un certain type de comportement. Et ce type de comportement, c'est celui qui imite le Maître, c'est celui qui imite Jésus. Donc la douceur, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'amour. Quand on lit « Aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain comme vous-même », c'est une règle, c'est une loi. Et on sait que les lois ne valent que si elles sont accompagnées. Les lois ne valent que si elles sont accompagnées de sanctions. Ah oui, là, c'est les... Tac. Des décrets d'application. Vous avez entendu ça? Il y a une quantité de lois qui ont été votées par le Parlement et qui ne sont jamais appliquées. Pourquoi? Parce que il manque les décrets d'appliquer. C'est-à-dire la manière dont on va appliquer la loi. C'est facile de dire aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu, mais on fait quoi pour aimer Dieu? Quelles sont les modalités d'application? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pour ça que on trouve ces recommandations, aimer Dieu, aimer son sac, que on trouve ces recommandations, aimer Dieu, aimer son prochain, c'est être doux, déjà, dans ses relations avec les autres. C'est être doux, c'est refuser la violence, refuser ce qui va heurter l'autre. Et l'apôtre Paul le dira aux Galates, refuser ce qui va heurter l'autre. Et l'apôtre Paul le dira aux Galates, au chapitre 6, au verset 1, il dira quoi ? Si vous devez faire une remontrance à quelqu'un, si vous devez reprendre quelqu'un, faites-le avec douceur. Faites-le avec douceur. Jésus ne dira pas autre chose quand il dit « Refusez la violence. Ne donnez pas prise à la méchanceté. » Il le dit dans le sermon sur la montagne. Il le dit au chapitre 5 de Matthieu, vous lirez. Donc, il y a quelque chose qui est intrinsèque au fait d'être disciple de Jésus-Christ, c'est que je sois une personne douce, une personne accueillante, une personne qui permet que les choses se calment. Le livre des Proverbes disait déjà, dans Proverbes au chapitre 15, au verset 1, il dit quoi ? On peut le lire ? Proverbes chapitre 15, au verset 1. Il disait « Une parole douce calme la fureur ». Une parole douce calme la fureur. C'est-à-dire, ça fait descendre la tension. Et c'est vrai que des personnes, on les écouterait parler, on se dit « Tiens, rien que d'être en leur présence, rien que d'être avec eux, on se sent déjà bien. Même s'ils n'ont rien dit, on se sent déjà bien. Il y a une certaine atmosphère de paix qui se dégage. Et on se dit, on est bien là. On n'a pas envie de les laisser. Et c'est ce qui est recherché en fait. C'est cette chute des tensions, cette diminution de la tension les uns envers les autres. détention, cette diminution de l'attention les uns envers les autres. Et je disais, l'amour doit se décliner, il doit se décliner en certains types de comportements, et la douceur est un type de comportement qui est fondamental, qui est consubstantiel à l'amour. Maintenant, elle se manifeste comment, cette douceur ? Maintenant, elle se manifeste comment, cette douceur ? Elle se manifeste par les paroles, déjà. Cette douceur, elle se manifeste par les paroles, déjà. Par les paroles, la manière de parler, la manière de s'adresser aux autres. J'ai souvent envie, quand je suis un peu énervé, de laisser échapper des paroles, et des fois ces paroles-là, eh ben, elles blessent, elles tuent même, ou elles rendent stérile le dialogue. Et déjà les paroles sont importantes, le dialogue. Et déjà les paroles sont importantes. Pour manifester de la douceur, ces paroles sont essentielles. Ce n'est pas dit qu'il me comprenne exactement et qu'il comprenne exactement ce que je veux lui dire, mais déjà dit qu'il me comprenne exactement et qu'il comprenne exactement ce que je veux lui dire, mais déjà si je le dis avec douceur, j'ai plus de chances que le message puisse passer. Et le message est parfois difficile à faire passer. C'est pas toujours simple, mais la douceur permet de rendre ce message accessible. Et on a beaucoup d'exemples dans la Bible où des personnes qui étaient pas forcément très douces au départ le sont devenues peu à peu. Jésus donnait des surnoms souvent devenus peu à peu. Jésus donnait des surnoms souvent à ses disciples. Vous le voyez dans la Bible. Et il y en avait deux qui avaient reçu un surnom particulier. C'était les fils de Zébédée qui l'avaient appelé Fils du tonnerre, hein, fils du tonnerre. Donc, il devait pas être très simple de communiquer avec eux. Il devait être souvent un peu énervé. Et il les appelait les fils du tonnerre. Et on s'aperçoit que cette fréquentation de Jésus, au fur et à mesure du temps qui est passé, de ces 3 ans et demi qu'ils ont passé ensemble, a fait que ce Jean est devenu quoi ? Le disciple bien-aimé, le disciple que Jésus aimait. Et c'est lui seul qui s'est retrouvé où ? Alors j'essaye de faire un peu d'interrogation écrite, c'est mon passé de professeur qui ressort. Il se trouvait où ? Au pied de la croix. Le seul, puisque Jésus lui a dit quoi ? Voilà, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Donc, il a confié Marie, sa mère Marie, à Jean. Donc il y a eu une évolution de ce fils du tonnerre qui, à un moment donné, vous demandez à Jésus, est-ce qu'on peut faire descendre le feu du ciel sur ces personnes qui ne nous ont pas reçus, ce village-là, il a refusé de nous recevoir, on va les griller tous. Allez, vas-y, donne-moi l'autorisation, je fais descendre le feu du ciel. Donc de cette situation-là, de ce comportement-là, il est devenu ce disciple qui était proche, très proche de Jésus, au point que Jésus lui a confié sa maman en lui disant, prends soin de Marie. C'est maintenant ta mère. Et donc, on voit qu'il y a une évolution possible. Certains diront, oui, ben, c'est facile quand on est doux, quand on a un caractère calme. On a un caractère paisible, c'est facile. La douceur, c'est presque inné. Pas tant que ça. Parce qu'il y a des moments où on sort de ses goûts. Quand on est déjà mal parti, comme Jean, il sort de ses goûts. Mais quand on est déjà mal parti, comme Jean et Jacques, C'est vrai qu'on se dit, c'est impossible, c'est inatteignable. La douceur est inatteignable. Et pourtant, ce qui est rassurant quand même dans cet évangile, c'est que quelqu'un comme Paul, il disait de lui, qu'est-ce qu'on disait de Paul quand il gardait les vêtements d'Étienne pendant qu'on lapidait Étienne ? C'était quelqu'un d'une grande fureur. Quand il a demandé des lettres pour aller persécuter les gens qui croyaient en Jésus dans les églises, dans les synagogues, autour de la Méditerranée, là, ou en Asie, dans les synagogues autour de la Méditerranée, là, ou en Asie mineure, on disait qu'il respirait la fureur et la haine. Donc c'était pas quelqu'un qui était d'une douceur extrême. Hein. Donc c'était pas quelqu'un qui était d'une douceur extrême. Hein. Il pensait aller et ramener les gens enchaînés pour les lapider ou pour les tuer sur place. Voilà son projet initial. Quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a dit que les écailles, comme des choses sont tombées de ses yeux, symboliquement peut-être, mais peut-être physiquement aussi. Puisqu'il est resté avec un problème de vue. Il a toujours un problème avec ses yeux. Et donc, il a vu les choses autrement et il est devenu beaucoup plus calme. Il n'en était pas moins ferme, mais il était calme. Il essayait de comprendre les situations. Il a eu beaucoup d'amour pour ces églises qu'il a mis en place, ces gens qui ont répondu à sa prédication. Et on voit que Paul est devenu presque leur père. Il les portait dans son cœur, il portait tous ces fidèles qui s'étaient convertis, il les portait dans son cœur et il a donné de sa vie. Il raconte aux Galates combien sa vie a été mouvementée, combien de fois il a fait naufrage, combien de fois il a été lapidé, laissé pour mort. Il a été en prison. Enfin, c'est une vie qu'il a consacrée à la prédication de l'Évangile. Et cette vie-là, elle a été menée de plus en plus dans la douceur. On voit qu'il s'est de plus en plus rendu accessible aux autres. Et c'est en soi, un exemple, et c'est en soi une consolation de se dire, même si je suis... même si je ne suis pas porté sur la douceur, même si j'ai un caractère un peu vif, si j'ai un tempérament un petit peu sanguin, comme on dit au niveau des tempéraments, j'ai espoir que les choses peuvent changer. Et cet espoir, il est consolidé par le fait qu'on retrouve... La douceur dans quoi ? Dans une autre liste, et c'est dans Galates au chapitre 5. Et Galates au chapitre 5, ça décrit quoi ? L'amour, et ça décrit les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Et Galates au chapitre 5, vous regarderez dans la liste de ces fruits de l'esprit, ils disent les fruits de la chair, c'est ceci, c'est l'envie, la fureur, la dispute, l'ivrognerie, etc. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur. La persévérance, etc. Donc c'est un fruit de l'esprit. Qu'est-ce à dire que c'est un fruit de l'esprit ? Ça veut dire quoi en réalité ? Si on essaye de le traduire autrement en paroles, plus simples, c'est l'esprit qui les produit. C'est-à-dire que même si je suis parti, très bas, c'est l'œuvre de Dieu en moi. C'est l'œuvre de Dieu en moi, l'œuvre de l'Esprit de Dieu en moi, qui peut me transformer. C'est vrai que de Dieu en moi, l'œuvre de l'Esprit de Dieu en moi, qui peut me transformer. C'est vrai que par mes propres moyens, je ne peux pas transformer vraiment mon caractère. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas transformer vraiment mon caractère. Mais l'Esprit de Dieu, c'est un fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu peut transformer mon caractère et me rendre doux là où j'étais violent, là où j'étais impulsif, là où j'étais incapable de me maîtriser dans certaines situations. Et ça, c'est quelque chose de me maîtriser dans certaines situations. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Ça ne veut pas dire que nous allons dire à Dieu, ben tu n'as qu'à t'occuper. Ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Ça ne veut pas dire que nous allons dire à Dieu, ben tu n'as qu'à t'occuper de moi. Moi, je continue à être comme je suis. Hein, il faut me prendre tel que je suis. Je suis brusque. Eh ben ça, il faut faire avec. Mais Dieu me changera peut-être un jour. Non. Ça veut dire qu'il faut que je m'engage moi-même à aller vers cette douceur, à faire ce que je peux. C'est-à-dire à essayer de casser ce cercle vicieux qui est que je m'énerve et si je ne fais rien, je finis par être frustré. À force de mes énervements, je finis par être frustré. Et si je ne fais rien de ces frustrations, je finis par tomber dans le pessimisme, c'est-à-dire je vois les choses de ces frustrations. Je finis par tomber dans le pessimisme, c'est-à-dire je vois les choses en noir, je n'ai jamais ce que je veux, hein, je ne suis pas content de ma vie, et le pessimisme risque de me conduire à quoi ? Au cynisme. Au bout, il y a le cynisme, c'est-à-dire ben, je remets tout en cause, je fais exprès d'être anticonformiste, je fais exprès de faire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, j'en ai plus rien à perdre en quelque sorte, j'ai été au bout. Et il faut casser cette chaîne, et il faut s'y employer. Il ne faut pas dire Dieu va le faire pour moi et moi je vais attendre. Non, mais c'est lorsque je m'y emploie et que je laisse Dieu agir, c'est là que je vais pouvoir progresser, c'est là que je vais pouvoir changer. Et ça c'est une grande source d'encouragement. Je dis pour moi, personnellement... par ce problème de la douceur, ce problème de la non-violence. On a quelque chose qui est contenu dans ce verset, qui est important, qui est que cette douceur doit être apparente. Le verset dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Connue de tous les hommes. C'est-à-dire, moi j'ai un cœur tendre, mais ça ne se voit pas. Ah, on entend souvent ça. Oh oui, mais moi je suis tendre à l'intérieur. Hein, je suis tout doux à l'intérieur. Il n'y a que l'extérieur qui, bon, de temps en temps, ne fonctionne pas comme l'intérieur. Mais c'est pas ça que dit. Ce que dit le texte, c'est qu'on vous connaisse parce que vous êtes réellement doux. C'est ce qu'on voit à l'extérieur. Et ça, c'est une marque que vous êtes réellement doux. C'est ce qu'on voit à l'extérieur. Et ça, c'est une marque de fabrique, un label. On devrait dire ah mais c'est un chrétien, mais qu'il est doux, c'est une chrétienne, mais. Qu'elle est douce, c'est normal, c'est presque normal, mais ça se voit. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul, que ça puisse être visible. Tellement visible que ça devienne presque un dicton. On dit chrétien, doux. Je ne sais pas si c'est ça que diraient nos collègues de travail, si c'est ça que diraient nos voisins, si c'est ça que dirait notre épouse, notre mari, nos enfants. Est-ce que le premier mot qui leur viendrait à l'esprit, c'est quelqu'un de doux ? C'est pas sûr. Et donc c'est une invitation qui est